Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme tous les vendredis, c'est le forum de la presse des journalistes qui donne leur point de vue sur l'actualité qui a marqué la semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de sécurité avec les attaques qui se multiplient ainsi que de la grève de la Sintad et également de l'expulsion de Maliens depuis l'Algérie. Et nos invités sont tous journalistes Ramata Diaouré, Makan Konaté, Amidou El Hadji Touré et Andrea Di Giorgio qui nous rejoindra au cours du débat. Nous allons commencer tout de suite avec la sécurité d'abord.
Le grand dialogue.
Recrudescence des attaques terroristes dans le nord et le centre du Mali. 3 soldats maliens, 3 casques bleus tchadiens ont été tués ainsi que des blessés cette semaine dans cette zone. Bien sûr, il s'agit du nord et du centre du pays. Et au même moment, les forces françaises disent avoir neutralisé 15 djihadistes au nord du pays. Ramata Diaouré, que pensez-vous de cette recrudescence de ces attaques dans le pays?
Ben, je pense que malheureusement c'était quelque chose de prévisible. C'est une zone aujourd'hui où on se demande qui contrôle quoi. On a un petit peu l'impression que l'État n'y est plus. C'est finalement un combat entre forces légales, forces illégales, trafiquants, terroristes, armées constituées, milices armées, on ne sait plus qui fait quoi. Et il y a malheureusement depuis des années le recours à ces engins explosifs improvisés qui augmente de jour en jour. Je sais qu'il y a pas la semaine dernière d'ailleurs aux alentours dans Sango, on a attrapé des gens qui s'apprêtaient à commettre, à poser de ce type d'engin et qui avaient tout le matériel qu'il fallait pour. C'est vous dire que, de mon point de vue, la récurrence n'est pas terminée, ça va continuer.
D'accord. Amidou El Hadji Touré, vous, comment voyez-vous cette situation?
Cette situation est préoccupante et a priori, je m'incline de voir la mémoire de tous ceux qui ont eu à perdre leur vie et vraiment, je présente mes condoléances à toutes les familles attristées. Et sincèrement, la situation est alarmante et très, très, très critique. Et il en va de soi aujourd'hui que et les forces FAMA et la MINUSMA et les forces Balkan essayent de consolider les relations avec les populations surtout. Essayent de travailler en synergie avec les communautés pour que ces communautés puissent d'abord les accepter et ensuite collaborer dans la défense et la sécurité. Puisque aujourd'hui la guerre devient très très asymétrique. Et ce n'est plus des forces qui se font face, qui se fusillent ou bien qui sont là face à face, mais c'est une guerre asymétrique. On utilise tous les moyens possibles aujourd'hui pour faire mal et pour terroriser les populations. D'accord. Donc la situation est vraiment critique et alarmante.
Makan Konaté, votre point de vue sur la situation?
Oui, je crois que chaque communauté, chaque mouvement armé essaye de marquer son terrain. La pose des engins explosifs, je crois que ça se passe par des gens qui savent exactement où est-ce qu'ils ont posé ces engins explosifs et quels sont les chemins à suivre pour pouvoir les contourner. Ils le savent. Donc, je crois qu'il y a une situation qui est très, très regrettable. Mais à la guerre comme à la guerre, ceux qui font ces actes de ce genre, il faut le revers de la médaille. Il faut que l'armée aussi agisse de la même manière. C'est-à-dire, je voudrais dire que ils veulent la guerre, faisons la guerre avec eux, mais négocions. On ne peut pas discuter avec quelqu'un qui a une arme pointée sur toi. Toi, tu as tu es là, les mains libres, il y a quelqu'un qui a une arme qui est pointée sur toi, et ils veulent qu'on discute. Donc, on ne peut pas discuter comme ça. Forcément, il faut aller à la guerre avec ces mouvements armés. Il faut que l'armée s'engage vers ça. Il faut faire la guerre. Rien que la guerre et toute la guerre, tout en négociant.
Amidou Makan pense qu'il faut faire la guerre, mais aujourd'hui, face à cette situation de plus en plus complexe, est-ce qu'on sait contre qui on fait la guerre?
Malheureusement, c'est ce que j'allais répondre au confrère Makan. On ne sait pas qui est ce poseur de bombes, on ne sait pas qui est ce terroriste qui est caché, on ne sait nulle part, peut-être entre nous. On ne sait pas qui ils sont. Donc, comme je le disais tantôt, c'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre où les données, où je ne sais pas, X et Y sont connues. Mais là, X et Y ne sont pas connus. Nous savons quand même que nous avons face à nous des forces du mal qui veulent terroriser nos populations, d'où il est impératif, je ne cesse de le répéter, que la MINUSMA, les FAMA, Balkans, travaillent avec les communautés pour que vraiment nous puissions avoir de l'information, traiter l'information à temps et pouvoir déjouer et contourner toutes ces mesures vraiment déplorables qui sont en train de...
Gramata Diaoury, M. Touré dit qu'on ne sait pas qui combattre. Est-ce qu'on n'a pas les moyens d'identifier ces gens?
Moi, je pense qu'il y a un travail qui reste à faire et qui n'a malheureusement pas été fait depuis longtemps. C'était justement, effectivement, comme disait Touré tout à l'heure, de plus travailler avec les communautés. On a malheureusement laissé un petit peu les communautés à l'écart et je pense que les communautés, pour la plupart, en tout cas dans le centre et certaines du nord, savent, connaissent même certaines des personnes qui font ça. Parce que ce sont souvent des gens issus de ces communautés-là, qu'elles ne peuvent pas rejeter. Elles sont issues de ces communautés-là et ils ne peuvent pas les rejeter comme ça du but en blanc. Mais travailler à les ramener à de meilleurs sentiments, travailler à les empêcher de rejoindre des mouvements terroristes, travailler à créer des liens qui font que du renseignement, des informations ressortent, remontent à qui il faut. Il faut réellement qu'il faut travailler avec ces communautés-là. Et malheureusement, dans le cas d'espèce, et ça, c'est, je pense, un problème auquel les FAMA sont confrontés, c'est que les communautés ont, je pense, autant peur de certains éléments des mouvements armés, qu'ils soient terroristes ou pas, qu'elles ont peur des comportements souvent de nos forces armées maliennes. Et ça, c'est très compliqué. Ça ne crée pas la confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de renseignement.
D'accord. Mais quand est-il possible d'établir cette confiance?
Oui, c'est ce que je voudrais dire. Il y a une des forces majeures de ces faiseurs de mal repose sur le renseignement. Nos forces armées n'ont pas suffisamment pas infiltré ces mouvements, ces faiseurs de mal. Alors que de l'autre côté, l'armée malienne est infiltrée. La MINUSMA est infiltrée. Les Barkhane, ils sont tous infiltrés. Quand ils se déplacent, immédiatement, on sait qui est en train d'aller où et qui fait quoi. Donc ce renseignement manque énormément à nos forces armées et de sécurité. Et il va falloir que ce renseignement-là soit mieux outillé et que les autorités s'y occupent à bon escient, afin que nos forces armées de sécurité puissent également, ne serait-ce qu'à travers la population civile,
ce renseignement qu'il leur faut,
bénéficier de renseignements utiles.
Mais les forces armées maliennes qui sont présentes, Barkhane également, la MINUSMA, la force G5 Sahel qui est en cours, est-ce qu'elles ne sont pas suffisantes, toutes ces forces?
Bon, il faut, je le dis, et ça n'engage que moi, je n'ai jamais eu confiance aux forces françaises, les Barkhane. Je n'ai jamais eu confiance à la MINUSMA non plus. Parce que MINUSMA,
il y a trois casques bleus tchadiens qui viennent de
l'essayer. Oui,
il y a les forces françaises qui viennent de neutraliser.
C'est des situations qui sont, regrettables. Parce que quand on veut parler de Barkhane, il faut remonter encore à 1961. Il faut remonter à l'année où vraiment l'armée française a quitté. Moi, je vois les Français ici au Mali comme les revanchards. Nous sommes venus pour nous venger parce que vous nous avez chassés. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous réinstaller et bénéficier de vos ressources minières, etc., etc., etc. Donc, pour moi, les Français sont là pour ça. La MINUSMA, c'est une question d'argent. Sinon, je ne peux pas comprendre que...
Question d'argent, c'est-à-dire ?
Question d'argent, c'est une affaire de gros sous. Imagine un agent de la MINUSMA qui est payé à 40 000 francs, 50 000 francs par jour, d'autres à 100 000 francs par jour, et qui veut que cette guerre-là finisse, à moins que la manne ne soit fermée. Donc, il y a tout cela. J'allais dire que... Je parlais justement des Français. Ils sont là, hein. Ils sont là et ils ne vont pas quitter. Et ils ne vont pas quitter maintenant. Tant qu'ils n'auront pas suffisamment tout ce qu'ils cherchent, ils ne vont pas quitter. Donc cette guerre-là n'est pas encore finie.
D'accord.
Et ça va durer très longtemps.
Est-ce que vous partagez le point de vue de Makan Konaté?
Malheureusement, non, je ne partage pas le point de vue du confrère Magan. En ce sens que ces forces Balkans MINUSMA sont là pour nous aider. Seulement la communication n'est pas passée. Et comme je le disais, aussi bien Balkans que MINUSMA, que les FAMA doivent mieux communiquer, essayer de se réconcilier, surtout les femmes, à se réconcilier avec les communautés pour disposer de l'information utile et en temps utile pour pouvoir la remonter à qui de droit, comme disait la sœur Ramata. Donc, moi je pense qu'il y a un travail de fond, pas de forme seulement, un travail de fond à faire. La MINUSMA est là à longueur de journée, nous constatons malheureusement et déplorablement que des forces de la paix qui perdent leur vie à longueur de journée, des convois qui sont attaqués. Et pourtant, nous sommes convaincus que MINUSMA et Barkhane sont là pour le Mali, pour aider le Mali, pour nous aider à retrouver la paix, pour nous aider à lutter contre le terrorisme. D'accord. Parce que si le Mali est instable, ce n'est même pas toute l'Afrique, mais c'est jusqu'à l'Occident qui devient instable.
D'accord. Ramata, à votre point de vue.
Moi, je suis assez d'accord avec Touré. Et je rappellerai juste deux ou trois choses. S'agissant de la MINUSMA, ils ont perdu au Mali plus de 143 personnes depuis qu'ils sont arrivés, dont plus de 80, pas loin de 90 justement, qui ont sauté sur des mines, sur des engins explosifs improvisés. Ils payent un très très lourd tribut. Le fait qu'ils viennent travailler ailleurs que chez eux, nous Maliens, nous ne devons pas oublier que nous avons aussi beaucoup travaillé ailleurs que chez nous. Nous avons travaillé à l'Ecomo, nous avons travaillé au Libéria, donc nous avons travaillé en Haïti, nous avons travaillé en République centrafricaine. Ouais. Donc le fait que les armées du continent se retrouvent dans les opérations de maintien de la paix qui se passent sur le continent, je trouve ça normal. Et je pense que c'est même bon pour l'Afrique de créer cet embryon-là. Concernant la force du G5 Sahel, les gens sont très optimistes. On nous dit que ça va commencer fin octobre. Moi, j'en doute un petit peu. Donc, je considère que nous devons, excusez-moi, faire avec ce que nous avons, dont nous disposons actuellement. Comme le dit Touré, je pense qu'une des grosses choses que tout le monde doit aussi avoir présente à l'esprit, c'est le fait que ce travail, le côté fractionnel, si vous voulez, ou revendiquant, soi-disant, une autonomie ou une indépendance qui, à mon avis, sont utopiques. Mais bon, parce que pour moi, ça ne serait pas viable. Mais ça, ce volet-là peut être géré au niveau interne avec des négociations conduites, on nous dit, sous l'égide de la communauté internationale, même si j'ai quelques préventions vis-à-vis de certains des acteurs. Mais il est certain que sans Serval d'abord, Barkhane ensuite et la MINUSMA aujourd'hui, la situation serait clairement pire que ce qu'elle est. Donc, il y a quand même des points positifs. Là où je considère qu'il y a un gros problème, c'est dans les mandats qui ont été définis pour ces missions-là. Je dirais que Barkhane est quasiment une force seulement antiterroriste, et ça, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a d'autres gens qui interviennent dans ces zones-là qui ne sont pas seulement des terroristes et des terroristes djihadistes. Il y a toute une économie souterraine et parallèle liée à la drogue. Et je rappelle, comme disait Touré, que ce n'est pas nous qui consommons la drogue, ce n'est pas au Mali qu'elle est consommée. Cette drogue qui passe par chez nous, elle est acheminée vers les pays de l'Occident. Et ce sont leurs jeunes, ce sont leurs enfants qui meurent avec les overdoses. Ce n'est pas majoritairement les nôtres. Donc il est important qu'effectivement ces combats soient menés. Mais là où il y a réellement le gros problème pour moi, c'est concernant le mandat de la MINUSMA. Vous m'excuserez, mais ça devient du tir aux pigeons. C'est comme si on expose des gens à ce que beaucoup de choses puissent leur arriver sans qu'eux-mêmes n'aient la capacité et le droit, surtout, de riposter dans n'importe quelle condition. Et ça, c'est très dangereux. Ils ne peuvent pas faire de travail préventif de manière militaire. Ils ne peuvent que faire de la riposte en cas de légitime défense ou en termes d'attaque. Quand vous voyez les moyens dont ils disposent et que n'a pas l'armée malienne, il y a un hiatus entre le matériel et les forces en présence, et leur mandat malheureusement ne le permet pas. Et moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Mali ne se bat pas pour que le mandat de la MINUSMA soit revu d'une autre manière.
D'accord. Makan, vous qui pensez que la MINUSMA et Barkhane n'ont pas leur place ici au Mali, comme certains Maliens sont révoltés, qui demandent même le départ de ces forces, pourquoi ces Maliens n'arrivent pas à accepter que ces forces-là restent au Mali?
Vous savez, imaginez un peu toute la force, tout le matériel que dispose Barkhane. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne savent pas où se trouve un terroriste comme Yad Agali. Ils savent où il est. Les chefs terroristes, ils savent où ils sont. Mais pourquoi ne pas chercher à les dénicher? Pourquoi ne pas dire, collaborer avec l'armée malienne pour dire, bon, voici, ils sont à tel niveau. Envisageons une action dans ce sens. La collaboration n'est pas franche entre les FAMA, Barkhane et la MINUSMA. Il y a un déficit de communication. Deuxièmement, la grande sœur a parlé d'une chose. C'est vrai. Imaginez un peu, prenons tout simplement, je ne sais pas, je suis en train de perdre le fil, mais c'est toujours par rapport à ces mouvements terroristes-là qui sont là. D'accord. Avec tous les moyens dont ils disposent, on n'arrive pas à se tuer. Qui fait quoi?
D'accord. Touré, avant de vous donner la parole, Ramata Diaoré, vous dites que la force Barkhane est là, elle a un mandat de lutter contre le terrorisme. Yadar Ali est un terroriste, justement, comme le souligne Makan Konaté.
Permettez-moi, Touré.
Je vous donnerai la parole.
Non, permettez-moi, je me suis retrouvé avant que je ne perde encore le fil.
Allez-y.
D'accord. Grâce à
l'Église. Allez-y.
Non, vas-y.
Ok, Ramata Diaoré, qu'il est un terroriste, Yadar Ali. Makan pense que les forces françaises savent où il se trouve et ils ne veulent pas, elles ne veulent pas plutôt aller le chercher.
Je ne suis pas ni le porte-parole de Barkhane, ni membre de Barkhane. Je peux difficilement savoir s'ils savent où se trouve Iyad et pas seulement Iyad. Mais je rappelle aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie que Barkhane n'intervient pas qu'au Mali. Barkhane intervient d'ailleurs, il n'est même pas basé au Mali. Il n'y a qu'une, voilà. C'est un petit peu tout le Sahel. Il est basé au Tchad. Et en fait, Barkhane, c'est un réseau d'antiterroriste, recouvre un petit peu le territoire couvert par le G5 Sahel. Et ça, c'est aussi, quand je parle de mandat, il faudra aussi qu'un jour qu'on en parle. Il faudrait quand même qu'on arrive à avoir un mandat et des missions communes à toutes ces forces censées intervenir sur cette même zone du Sahel et censées combattre le même ennemi.
D'accord.
Comme ça me permettrait de mettre en commun tout ce qui est disponible.
D'accord.
Comme dit Makan, et je suis d'accord avec lui sur ce plan-là, j'ai l'impression que la mise en commun, aussi bien des effectifs que des matériels, et que du renseignement, que des informations et que des stratégies, n'est pas effectivement faite. Et c'est au détriment et de ce pays-là, et du Sahel, et même des pays de l'Occident qui vont avoir ces gens-là qui vont aller chez eux.
D'accord. Monsieur Touré, comment peut-on comprendre une mission des Nations Unies, l'ONU, c'est quand même une institution très grande, Barkhane également, une force française, et également la force G5 Sahel qui est là, qui est un problème de mandat et de déficit de communication, comme le pense Makan Konaté par rapport à ces questions. Est-ce que c'est compréhensible?
Bon, c'est pas compréhensible, mais c'est appréhensible. C'est-à-dire que nous l'appréhendons comme tel et nous essayons du jour au lendemain à décliner, à décrier, à dénoncer qu'est-ce qui ne va pas pour leur permettre quand même un peu d'améliorer. Aujourd'hui, je dirais que quels que soient les moyens dont disposent ces forces-là, j'estime que les terroristes ou les djihadistes en ont des moyens pareils, similaires ou même qui les dépassent. Donc, à mon sens, je ne fais pas le débat des vendeurs de cola ou de cigarettes. Moi, ma perception de la chose, c'est quoi? C'est que les forces Barkhane ou MINUSMA peuvent intercepter des communications, mais dire qu'ils savent concrètement où se trouve Iyad ou tel chef de chef de guerre ou terroriste ou djihadiste, je ne le pense pas. Secondo, je pense aussi qu'il y a tout un système derrière cette tête de poids, de proue, qui est Iyad ou quelqu'un de sa carrure, qu'il faut essayer de démanteler. Et ça ne se fait pas en s'attaquant directement à la tête de poule. C'est pas en décimant la tête que l'organisme va perdre, sa force ou son ampleur. C'est encore créer des minuscules de chefs qui vont encore être plus efficaces que lorsqu'ils sont dans une structure. Maintenant, il faut essayer de décimer la structure à la base ou dans ses membrements avant qu'elle ne soit encore plus
d'accord.
Plus
par rapport à, ça, au fait ça, de convaincre la population de leur mission aujourd'hui, la MINUSMA elle n'est pas à sa première mission, elle a de l'expérience. Oui. La mission de l'ONU plutôt. Oui. La MINUSMA elle est là depuis juillet 2013. Mais pourquoi elle n'arrive pas à communiquer pour convaincre les Maliens?
Bon, je pense qu'à chaque communauté et sa stratégie, c'est sa manière, ou à chaque communauté une situation appropriée. Aujourd'hui, les communautés qui vivent en ce moment, les communautés du nord et du centre qui vivent en ce moment toute cette crise-là, il y a eu une crise de confiance entre elles et les FAMA a priori. Ensuite, ces forces qui viennent se greffer aux FAMA. Donc, cette perte de confiance fait que tout ce qu'ils amènent comme sensibilisation, ça ne passe pas directement d'eux ou bien d'elles à la communauté. Il faut sûrement passer par des structures intermédiaires comme les regroupements de journalistes, les associations de communicateurs, la société civile, les femmes et autres regroupements pour véhiculer un message, pour pouvoir trouver une solution par rapport à ça. Et je pense que c'est ce qu'il faut.
Dernier tour de table pour parler de solutions aujourd'hui, Maka Konaté. Qu'est-ce qu'il faut par rapport à cette question ?
Il y a une perte de confiance. Le grand frère en a parlé, il y a une perte de confiance. Perte de confiance, mais également au sein même des femmes. Il y a une perte de confiance là-bas. Et imaginez le cas de ce jeune capitaine qui a quitté Sikasso avec ses éléments pour aller relever un autre contingent au nord, mais qui n'avait pas suffisamment de moyens. Il a refusé. Arrivé à Ségou, il a refusé parce qu'il n'avait pas suffisamment de moyens. Il a refusé. Il est retourné. Il est retourné avec ses hommes. Il dit je ne veux pas laisser ces jeunes gens aller à la mort. Il dit je ne peux pas. Bon, maintenant, deuxièmement, je voudrais rebondir sur un point que Ramata Diawara a souligné. C'est le cas à présent de cette question du Nord. Imaginez, Serval nous a aidé à Mopti. Serval nous a aidé à Tombouctou et à Gao, mais Serval nous a bloqué en nous empêchant d'aller à Kidal. Pourquoi ?
D'accord.
Une armée souveraine aujourd'hui sur un territoire
pour faire
souverain.
Face à cette question de terrorisme et de lutte, de processus de paix, qu'est-ce qu'il faut comme solution ?
Je dis, il faut faire fi de tout ce que cette organisation internationale de défense des droits de l'homme dit en général. Je dis 10 en général, hein, parce qu'on parle de violation des droits de l'homme, de ceci, de cela, alors que...
Et est-ce que vous pensez que si la MINUSMA, Barkhane ne sont pas présentes ici au Mali, l'armée malienne, les autorités, elles seules pourront relever le défi?
J'allais en venir. Il faut mater. Il faut aller à la guerre comme à la guerre.
Mater pour mater, savoir qui mater
et discuter.
Ramata Diawara, votre point de vue par rapport aux solutions.
Moi, déjà, il est hors de question qu'on sorte de tout ce qui est le domaine des droits de l'homme. Je pense que une guerre asymétrique, c'est que les mauvais comportements et les comportements qui sont des crimes sont du côté de ceux qui sont asymétriques et pas du côté de ceux qui sont légaux. Donc ça, je ne trouve pas ça normal. Secondo, le problème principal, je pense, des forces armées maliennes, et les gens l'oublient souvent, concernant les populations du Nord. Alors, quand il y a eu les occupations djihadistes en 2012 et que l'armée s'est repliée, comme on dit, de repli tactique en repli stratégique, mais il faut voir ce que les populations ont vécu. Quand vous avez des populations à Gao ou à Tombouctou qui a un militaire de son pays qui lui tend le fusil, qui le braque avec son fusil, qui lui dit « donne-moi tes habits civils parce que moi je suis en train de fuir », est-ce que vous pensez que ces gens puissent facilement avoir confiance en disant qu'on revienne, on va leur dire « ah non, ce ne sont pas les mêmes, c'est ceci, cela ou le reste ». Quand vous avez dans un pays, au niveau du plus haut sommet, une diplomatie qui ne s'assume pas en disant « voilà, nous au Mali, on voudrait que... » C'est au Mali de dire « on voudrait que le mandat de Barkhane soit ceci, on voudrait que le mandat de l'administration soit cela ». Mais nous avons de grands discours, mais je ne vois pas de gens qui ont... À chaque fois, on nous dit « on va changer le mandat de l'administration », il ne change pas. Il n'a pas beaucoup évolué, le mandat de l'administration, depuis qu'elle existe. Ça, c'est très compliqué. Et nous sommes en plus dans une situation où nous avons quand même un État qui a de gros problèmes, et avec la corruption, et avec ceci, cela ou le reste. Quand Macron disait notre armée est infiltrée et que les forces internationales sont effectivement infiltrées, moi je suis à peu près certain qu'effectivement, en tout cas, du niveau du côté des terroristes, il y a beaucoup plus d'informations sur ce que font les forces, je dirais, légales. Et les forces légales ont très peu d'informations sur ce qui se passe exactement du côté des terroristes. Et ça, c'est là la première asymétrie. Et ça, malheureusement, ça se gère avec les communautés. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que les terroristes, une bonne partie viennent de l'étranger, mais une bonne partie sont maliennes. Il y a des Maliens jusqu'à nouvel ordre. Et quand vous voyez ce qui se passe dans le centre du Mali, qui sont les éléments qui rejoignent les rangs de ces groupes terroristes? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a certaines zones de ce pays où le choix pour les jeunes, c'est soit de passer par le désert et d'aller sur la mer, soit de s'enrôler auprès des groupes terroristes. Et ça, c'est du niveau de l'État. Il faut prendre ses responsabilités par rapport à ça. Moi, je discute dans les cercles de femmes par rapport à comment on ramène la confiance au Nord. Et vous avez des mamans qui vous disent « Oui, mais moi, je voudrais bien que mon fils quitte tel groupe djihadiste Il a adhéré à ça. Mais s'il revient ici, il faudrait qu'on puisse lui proposer quelque chose. Qu'est-ce qui va lui arriver? Mais si je dis reviens, on va te tuer, ou on va t'emprisonner à vie, la maman ne va pas le faire. Et pourtant, comme disait Touré, c'est ces gens-là qui sont capables de faire changer les choses aujourd'hui. C'est ces gens-là qui sont capables de tarir le robinet qui alimente en personnel ces groupes terroristes. Mais le problème, c'est que jusqu'à nouvel ordre, moi je n'attends pas que d'abord que ce soit les autres qui fassent. Et malheureusement, c'est un travers malien. Nous attendons toujours que les autres fassent à notre place. C'est à nous d'abord de faire. Et quand les autres nous viennent en appui, ils trouvent que nous, on a fait le maximum. D'accord. Eux, ils viennent faire le complément. D'accord. Malheureusement, on n'est pas encore dans cette posture, dans cette stature-là.
D'accord. Amidou Touré, des discours des autorités, les observateurs, des spécialistes ont parlé, les journalistes ont fait beaucoup de débats, mais rien ne change aujourd'hui. Où se situe le problème? Est-ce qu'il s'agit d'une question de volonté?
Bon, il s'agit d'une question d'abord de volonté politique et une question aussi de comportemental, c'est-à-dire il faut vraiment que nous communautés, que nous essayons d'adopter le minimum de comportements sécuritaires. Et aussi je pense qu'il faut encore redoubler les forums, les forats, les rencontres pour essayer au maximum de convaincre et de sensibiliser les jeunes. Je vois ces jours-ci combien de jeunes sont revenus de la Libye, de l'Algérie. Que deviendront ces jeunes sinon des futurs terroristes, sinon des futurs djihadistes? Si d'office on ne les trouve pas de quoi s'occuper, on ne les trouve pas de quoi vraiment même oublier. D'abord un suivi psychologique, ensuite un suivi économique. D'accord. Pour qu'ils puissent vraiment quitter ce carcan et puis ne plus penser à aller de l'autre côté. Sinon, ça n'est fait de nos carottes.
D'accord. Andrea De Giorgio, bonsoir et bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, votre point de vue par rapport à toute cette situation sécuritaire et ce qu'il faut comme solution?
La situation sécuritaire, c'est sûr, vous venez de le dire, c'est vraiment empiré dans les dernières années. Ça, c'est un point très important par rapport à les Maliens. Les Maliens, il avait vraiment salué l'intervention française comme une intervention, une solution pour stopper la descente de djihadistes. Mais après des années, il voit que la situation, c'est de pire en pire. Et donc ça, c'est vraiment, ça joue sur la confiance des Maliens, surtout des jeunes maliens, comme tous les autres confrères viennent de dire, par rapport à la communauté internationale, d'un côté la MINUSMA et de l'autre côté la force Barkhane, et ils se demandent pourquoi, comment c'est possible qu'ils sont là depuis longtemps et que leur mandat est en train de se perpétualiser et sans avoir de véritables solutions sur le terrain. On sait très bien que le problème est, comme on vient de dire, c'est vaste, c'est pas facile de trouver une solution, avoir une solution tout de suite. Mais par contre, sont passées des années et on voit que la situation, surtout au centre du pays, on vient de voir l'état d'urgence qui vient d'être prolongé pendant les prochaines années. Et ça, c'est surtout à cause de la situation au centre du pays. Et on n'oublie pas qu'il y a des entières communautés. Je pense à tous les villages, toutes les communautés Bozo et qui sont dans le delta intérieur du Niger, qui se sont vraiment abandonnés d'un côté par l'État, et ils n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas de services de base, ils n'ont plus l'école, la région de Mopti et tout cela. Et ça, ce sont des problèmes qui sont en train de s'éradiquer vraiment dans les territoires maliens, surtout dans le centre du pays, mais aussi dans le nord. Et ça touche la sécurité socio-économique de tout le monde. Et je pense qu'il faut vraiment agir sur ça.
D'accord. Alors, observons tous une courte pause et vous pouvez réagir à toutes ces informations sur la page Facebook ou le compte Twitter de Studio Tamani ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros, 75 84 11 11 ou 75 84 12 12.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Parlons maintenant de grève. Le syndicat national des travailleurs de l'administration d'État SINTAD a entamé ce mercredi une grève de 72 heures pour protester contre la loi sur l'enrichissement illicite. Les discussions ouvertes depuis lundi et une rencontre avec le président de la République ont été un échec. Ramata Diaoré, que pensez-vous de cette grève du SINTAD?
Ben d'abord, comme la plupart des Maliens, j'étais assez étonné que des fonctionnaires décident de gréver par rapport à une loi qui lutte contre l'enrichissement illicite, parce que quand même, il me semble que les gens qui s'enrichissent le plus de manière illicite au Mali sont les fonctionnaires. Et alors après, en écoutant un petit peu, en analysant un petit peu ce qui se disait, Le Syntad, en fait, dit, enfin, il y a le Syntad et un autre syndicat, mais le Syntad est le majoritaire, dit, cette loi est une loi discriminatoire. Elle a, en fait, elle est rétroactive, mais elle est rétroactive seulement, je pense, jusqu'en 2012. Moi, je trouve assez, d'abord, une loi, par principe, en termes de droit, ne doit pas être rétroactive. Hein? Mais si on la rend rétroactive, pourquoi est-ce qu'on la limite à une date? Est-ce à dire que les gens qui se sont enrichis largement avant cette date-là, eux, ils vont passer à travers les mailles du filet? Ou est-ce à dire qu'on cible certains et on laisse les autres? Est-ce qu'il y a des catégories de fonctionnaires qui sont concernées et pas d'autres? Parce qu'il semble qu'il y a des catégories de fonctionnaires qui ne soient pas obligés de faire une déclaration de bien. Donc, l'égalité de tous devant la loi, c'est un principe auquel je tiens. Et je pense que si il doit y avoir une loi sur ce terme, il est évident qu'il faut qu'elle s'applique à tous. Et moi, j'irais même été plus loin, y compris les gens qui sont salariés de l'État, sans être les fonctionnaires qu'on nous voit. Au niveau de l'armée, on a eu assez de scandales. Je pense qu'on peut aller fouiller là-bas aussi. Au niveau d'autres corps, on peut aller fouiller aussi. En tout cas, tous les gens que l'État rémunère d'une manière ou d'une autre, tous les mois, devraient être effectivement ciblés par cette loi-là. Et ça ne serait que justice.
D'accord. Makan Konaté, qu'avez-vous compris dans cette grève du Sénat?
Bon, vous savez, le Syntad, le syndicat national des travailleurs de l'administration d'État, c'est l'un des syndicats les plus puissants de l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali. Et d'ailleurs, le secrétaire général de ce syndicat est le secrétaire général de la centrale syndicale UNTM. Donc c'est un syndicat qui est très puissant et qui décide d'observer une grève de 72 heures, ça veut dire que c'est sérieux. Le fait de dire que la loi est rétroactive jusqu'à une certaine date, j'ai comme l'impression, je ne dis pas que c'est vrai, mais j'ai comme l'impression qu'il y a certaines têtes qui sont visées à travers cette loi-là et qu'on veut faire tomber avant la tenue des élections. Donc je crois qu'il est bon jusque-là de poursuivre le dialogue et de voir, de trouver une solution à l'amiable entre les deux parties.
D'accord. Andrea De Giorgio, vous, que pensez-vous de cette grève du Syntad?
En façon générale, je pense que les grèves, ça fait partie d'une bonne démocratie, d'une démocratie qui est un bon état. Donc, en général, avoir des grèves, c'est une bonne chose parce qu'il faut voir vraiment qu'est-ce que sont les questions les posées sur la table pour cette syndicat.
Ce qu'ils revendiquent.
Qu'est-ce qu'ils revendiquent. Donc, il faut sûrement les écouter, mais aussi commencer à avoir un débat national parce que les élections s'approchent, donc on sait toujours quand les nouvelles élections présidentielles s'approchent, il y a toujours des grèves parce que tout le monde essaye d'amener des intérêts stratégiques pour leur propre cause. Et donc ça me rappelle beaucoup les grèves en juin des médecins qu'il a eu vraiment des dégâts et des effets énormes parce que beaucoup de gens sont morts dans les hôpitaux. Ici à Studio Tamani, vous avez beaucoup traité ce sujet. Et donc, en ce cas, il faut vraiment aller, je pense que le gouvernement a tout l'intérêt d'aller envers écouter ces gens pour le bien-être de tout le pays.
Est-ce qu'il y a des risques que cette situation précédente se reproduise?
Je pense que oui, parce qu'en fait, si on voit chaque syndicat, il fait son intérêt, c'est normal, c'est pour ça qu'ils ont été créés. Et donc si on voit les conceptions que l'État malien a fait par rapport à les médecins et aux autres juges, aux magistrats, aux autres classes de travailleurs, il faut vraiment écouter tout le monde. Mais par contre aussi, comme Ramata disait tout à l'heure, aller voir vraiment les causes intérieures de cet enrichissement illicite, qui c'est vraiment un des pires problèmes de ce pays, je trouve, dans tous les domaines. Donc ça touche sûrement les travailleurs de l'État, les fonctionnaires, mais aussi des autres classes.
D'accord. Monsieur Touré, si les revendications du Syntad sont satisfaites, fait, d'autres syndicats risquent d'aller en grève pour revendiquer leurs intérêts également. Et si les revendications ne sont pas satisfaites également, ils risquent de poursuivre ce mot d'ordre de grève. Alors, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, comme résultat aujourd'hui?
Bon, avant de tout d'abord de dire ce qu'il faut aujourd'hui, à mon humble avis, moi, j'ai eu aussi une lecture asymétrique, s'il faut dire comme ça, parce que je fais pas une lecture directe ni diagonale de la chose. Moi, je suis en train de voir plutôt, est-ce que le Syntad ou d'autres syndicats ne sont pas utilisés à des fins politiques, comme le confrère vient de le dire? Est-ce que ce n'est pas une manipulation pour que les élections qui doivent se dérouler dans peu de temps, je dirais, dans une vingtaine ou dans six semaines, est-ce que ces élections qui doivent se dérouler, est-ce que ce n'est pas une manière pour entraver ces élections qui doivent se dérouler? C'est la lecture que je me suis faite quand même de cette situation depuis avant-hier. Je suis en train de me creuser la cervelle, de voir asymétriquement, est-ce que, parce que, comment dire, un syndicat en grève, le préavis a été lancé, et j'ai constaté immédiatement que le Syntad a été reçu par le président de la République. Et, c'est-à-dire, pour moi, hein, ce n'est pas la logique, ce n'est pas la stratégie normale. D'abord, il faut des négociations, il faut qu'ils passent par le Premier ministre, il faut d'abord que, hein, arriver à un certain niveau, ils peuvent être reçus par le président. Donc, ma lecture est que, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'être matérialisés ou être utilisés pour d'autres fins? Voilà la lecture que je me fais. Maintenant, pour des solutions, je pense que la grève, quand même, c'est la manifestation, c'est quand même le droit de tout être humain. Et la grève, pour tout fonctionnaire, je pense que quand vous êtes mécontent d'une situation, vous partez en grève. Mais je dis que aujourd'hui, mettons le Mali au-dessus de tout ça. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons vraiment obtempérer certaines choses. Nous devons les accepter, rien que pour le Mali, rien que pour cette nation qui n'a que trop souffert.
Sont-ils conscients de ce que ça va coûter aux Maliens lambda?
Sont-ils conscients? Je ne saurais le dire. La lutte contre l'enrichissement illicite, je pense, est le mobile et le principal mobile d'ailleurs de cette grève-là. Donc, ce que l'enrichissement illicite cause aujourd'hui aux citoyens lambda, c'est énorme.
Mais est-ce que le Malien lambda soutient cette grève vu qu'elle est faite pour dénoncer?
Vous savez, au Mali, le déficit de communication a toujours été cette tare qui fait que personne n'est au courant de rien. Et le Malien lambda a toujours été instrumentalisé à travers les mosquées, à travers, je ne sais pas moi, des organisations, hein, même à travers des forces occultes. Les citoyens lambda ont toujours été, aussi avec la précarité existante, les citoyens lambda n'est qu'un objet, un pion à déplacer à volonté.
D'accord.
C'est que quand on parle du citoyen lambda, qui est l'image de la corruption pour les citoyens lambda au Mali? C'est le fonctionnaire. Donc, il peut difficilement suivre un mot d'ordre quand on dit... C'est-à-dire, si on veut dire schématiquement, pour le Malien lambda, le fait que les fonctionnaires aillent en grève contre ce qu'on leur présente d'un autre côté comme une loi, comme des instances de lutte contre la corruption, le fait qu'ils aient un rêve, pour le Malien moyen, c'est la preuve que ce sont des corrompus qui ne veulent pas que la loi s'applique à eux. Or ça, c'est trop facile. Il faut lire les textes de loi. Il faut se rendre compte que nous, depuis 2014, c'était censé être l'année de la lutte contre la corruption au Mali. On n'a rien vu. On a tout un tas de structures censées lutter contre la corruption. Alors regardez qu'est-ce qu'on fait des rapports du vérificateur général, qui a été jugé ou condamné par rapport à ça. Voilà. Donc, le débat de la lutte contre la corruption est devenu une antienne, c'est devenu un refrain qu'on a au sommet de l'État depuis des années. Et malheureusement, il faut quand même le dire, de 2010 à aujourd'hui, de 2012 même à aujourd'hui, on n'a jamais autant volé au Mali. On vole par milliards. Et il n'y a pas de débat. Alors, les vœux pieux là, et puis les belles phrases, c'est très joli, mais moi je ne vois pas. Objectivement, aujourd'hui, la loi contre laquelle le Syntad est en train de faire la grève, je vois même difficilement comment est-ce qu'il est possible même de la mettre en œuvre.
D'accord. Alors, quelques minutes pour parler d'immigration.
Je voudrais juste dire deux mots.
Quelques secondes.
Vous savez, quand un préavis de grève est déposé, immédiatement une commission de négociation est mise en place.
Ça n'a pas été fait.
Pour entrer en négociation avec ceux qui demandent à aller en grève. En ce moment. Voilà, donc d'accord, vous négociez, vous vous mettez d'accord. Mais je voudrais terminer par une phrase qui est de l'ancien président du Mali, Moussa Traoré, par rapport à l'enrichissement élitiste. Il a dit, lors de sa dernière interview qu'il a réalisée avec Feu Ibrahim Babakaké, il a dit, s'il y a une chose que je regrette, c'est que je n'arriverai jamais à changer la mentalité de mes cadres en matière d'enrichissement.
D'accord.
Alors, dernier tour de table sur l'immigration, je le disais. Plus de 2000 migrants d'Afrique subsaharienne ont été expulsés d'Algérie vers le Mali et le Niger. Certains ont été abandonnés dans le désert. C'est ce que révèle un communiqué d'Amnesty International qui dénonce leurs conditions d'arrestation. Andrea Di Giorgio, que pensez-vous de ces expulsions? Encore une fois de plus, cette expulsion venant de l'Algérie.
D'abord, il faut dire que les expulsions des Maliennes et des Nigériennes à partir de la Libye et de, surtout de l'Algérie, c'est pas un fait nouveau. Et surtout par rapport au Niger, il y a eu dans les dernières deux ans, il y a eu beaucoup, vraiment des milliers de Nigériens qui étaient expulsés de l'Algérie. Qu'est-ce qui est en train de passer aujourd'hui? L'Union européenne est en train de, dans sa politique d'externalisation des frontières, est en train de mettre la pression sur les États qui considère comme frontalier pour repousser la frontière de l'Europe au sud du mar Méditerranée. Parce que voir les migrants mourir dans la mer, ce n'est plus possible pour les politiciennes européennes. Mais ils ne s'attaquent pas à les causes profondes de l'immigration des Africains subsahariennes, mais ils mettent de la pression sur les États comme l'Algérie et comme la Libye qui sont en train de violer les droits de l'homme les plus élémentaires. Et donc, j'ai fait félicite beaucoup Amnesty International et ce rapport, que c'est vraiment très bien fait. Je conseille à tout le monde de les lire parce qu'il y a vraiment des témoignages et des faits concrets qui sont en train d'être passés, qui sont très graves. Et aussi, l'Organisation internationale pour les migrations, qui est devenue depuis quelques mois une agence officielle de l'ONU, pour l'instant, à mes connaissances, il n'est pas en train de réagir et surtout, il y a des associations comme la Case des Migrants de Gao qui sont en train de demander de l'aide financière et politique aussi pour aller envers sept confrères maliens qui sont bloqués entre Inhalil et la frontière algérienne qui sont là-bas. Ils sont dans des conditions vraiment pénibles et il faut toujours penser qu'ils ne sont pas des migrants mais sont des êtres humains, sont des Maliens, il faut aller les chercher, il faut surtout, comme on disait avant, prévoir des programmes de soutien psychologique et financier pour permettre à ces gens de ne pas voir cette expulsion comme un échec. Parce que, il faut le dire, pour ces gens, c'est vraiment la catastrophe. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils sont allés dans des pays comme la Libye et le Niger pour chercher du travail. Pas tout le monde, pas tous les Maliens ou les Nigériens qui sont partis là-bas voulait prendre la mer pour aller en Europe. Et donc l'Union européenne, selon moi, elle est encore en train de montrer encore une fois tous ses limites par rapport à la question migratoire.
D'accord. Amnesty International demande de mettre un terme à ces arrestations et expulsions illégales, Makan Konaté. Est-ce que c'est possible?
Oui, c'est possible. Je pense que si y a une nationalité en Afrique subsaharienne qui devait bénéficier de l'accueil et de l'entretien des autorités algériennes, elle devait être malienne. Parce que le Mali a été l'un des rares pays à envoyer des militaires combattre auprès du FLN pour la libération de l'Algérie contre les Français. Et c'est d'ailleurs une des causes de la rébellion aujourd'hui que nous vivons. Parce qu'il y a un militaire français qui avait déclaré.
Mais quelle action devrait être mise en place pour mettre fin?
Oui, j'ai pas fini.
On a pas assez
qui avait déclaré que le Mali va regretter, que Mouribou Keïta allait regretter son concubinage avec le FLN. Et c'est lui qui a armé les Touaregs contre le Mali. Donc, ce que disent ces missions de ces organisations de défense des droits de l'homme, c'est vrai. Le Malien ne mérite pas ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est en train de prendre tout le monde pour aller les déverser au Niger, sans tenir compte de leur pays d'accueil. On prend tout le monde pour le Niger.
D'accord.
Mais pourquoi? On se pose la question pourquoi.
Question bonne à poser. Qu'est-ce que les autorités africaines, notamment maliennes, font pour mettre fin à ces arrestations jugées illégales?
Dans le dernier cas d'espèce, malheureusement, les autorités maliennes sont restées silencieuses très 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 longtemps. Autant le Niger a réagi tout de suite, autant le Mali a attendu. Alors, vous savez, on a un gros problème au Mali avec le grand frère algérien, le grand voisin algérien et la grande Algérie. Et il y a beaucoup de vérités qui ne se disent pas. Et ça, c'est une des grandes faillites de notre... Je parlais de la diplomatie. On a des problèmes en termes de diplomatie dans ce pays.
D'accord.
Et une diplomatie qui se fonde sur la réalité, je pense, marcherait aussi bien avec l'Algérie qu'avec la Libye.
Merci beaucoup. Monsieur Touré, vous estimez que si ces migrants qui ont été expulsés, s'ils ne sont pas soutenus, ça constitue un risque également pour la sécurité?
Effectivement, un très gros risque, un trop gros risque. Mais avant d'arriver à cela, moi, je préfère vraiment que l'État et même les citoyens prennent toutes leurs responsabilités face à l'immigration clandestine et irrégulière. Parce qu'aujourd'hui, le Malien, nous, culturellement, nous sommes des immigrés. Culturellement, si on me dit que les Touré viennent de l'Andalousie ou bien qu'ils viennent du Maroc ou quoi, c'est-à-dire que c'est culturel, c'est en nos gènes, c'est en nos veines. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut trouver des problèmes, des solutions
pour que les autorités puissent prendre leurs responsabilités.
Voilà,
espérons qu'elles prendront leurs responsabilités. Ce qui met fin à ce forum de la presse, nous avons parlé de sécurité, de grève du Saint-Ad, également d'immigration, et nos invités Ramata Diaouré, Andrea De Giorgio, Makan Konaté et Amidou El Hadji Touré. Merci à tous. Débat réalisé par Moumine Sendebou, mise en onde assurée par Nouhoum Djiré à la régie vidéo Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. À la semaine prochaine pour un prochain numéro.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo demandé.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.